Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Benjamin, merci beaucoup d'être présent dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Tu es à l'initiative d'une entreprise que j'aime beaucoup. Tu vas nous en parler. Donc sans plus tarder, est-ce que je peux te demander de te présenter autant perso que pro en nous disant que ce que tu as envie de nous dire?
Merci beaucoup Estelle de m'inviter dans ton podcast, je suis ravi. Écoute, pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Benjamin Lano, j'ai 36 ans, je suis le papa de 2 enfants, mm-hmm. J'habite à Paris et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Ouais. Et voilà, depuis les bancs d'HEC sur lesquels nous étions ensemble, j'ai pu réaliser ce rêve et entreprendre et créer différentes entreprises. Voilà pour la petite présentation.
Donc il y a eu 6 sauts au début. Peut-être que tu peux nous en parler un peu rapidement, ouais. Ou pas d'ailleurs.
Avec plaisir. Écoute, en fait, au départ, avec mon associé historique avec lequel j'ai entrepris dans...
Qui s'appelle Benjamin aussi.
Exactement, on est deux Ben. Notre ambition, c'était en fait de démocratiser l'accès à la culture. En fait, on s'est aperçu d'un truc de dingue, c'est qu'en France... Aujourd'hui, t'as moins d'un Français sur deux qui va au musée, qui va avoir une expo, qui va avoir un contenu culturel par an. Mm-hmm. Et donc, on s'est dit, en fait, pour leur permettre de le faire, il faut aller là où ils sont. Mm-hmm. Et là où ils sont, c'est sur le web. Et donc, on a monté cette société qui s'appelle CISO, qui permettait, en fait, de faire des expériences en réalité virtuelle et de pouvoir tout simplement aller au musée depuis son téléphone ou son ordinateur.
À quelle époque ?
Ça, on a commencé, on a créé la boîte, nous, en 2010. Donc, tu vois, c'était il y a un peu plus de 12 ans maintenant déjà. Et la boîte s'est beaucoup développée ensuite dans différents domaines.
Dans le luxe aussi, non?
Exactement, ouais. Des expériences pour des grandes marques du secteur du luxe, notamment de la joaillerie, de l'horlogerie. Aujourd'hui, c'est une boîte qui a un peu plus de 15 personnes à plein temps et avec un associé gérant, mais dont on est très fier et qui a été pionnière dans ce domaine.
T'es plus opérationnel de temps? Enfin, quasiment
plus du tout. Ouais. Plus du tout. En fait, on a la chance d'être super bien entouré et d'avoir trouvé des collaborateurs qui sont devenus associés depuis et qui sont maintenant aux commandes.
Ok. Mais vous restez quand même, vous avez quand même des intérêts.
On est toujours d'accord. Effectivement via notre holding actionnaire de CISO.
Ok. Justement, on va parler d'ITIC. Tiens, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est qu'ITIC?
Oui, tout à fait.
Alors, c'est ta deuxième entreprise.
Alors, exactement. En tout cas, c'est une des différentes entreprises que j'ai pu créer ou co-créer. Mais c'est l'entreprise qui aujourd'hui occupe 100% de mon temps. Donc, ITIC, en deux mots, c'est la première app de livraison de repas 100% veggie, éthique et trop bon. En tout cas, c'est comme ça qu'on se définit. Mm-hmm. Et peut-être pour te donner un petit peu de contexte et te dire un petit peu comment c'est venu cette idée, on s'est retrouvé en fait comme beaucoup de gens pendant le Covid et pendant le premier confinement, à scroller sur les apps de livraison de repas, Uber Eats, Deliveroo, etc. Et quand tu as un régime végétarien, vegan ou flexitarien, que tu veux simplement en fait manger des choses qui sont un petit peu meilleures pour toi et aussi pour l'environnement, en fait, tu n'as pas beaucoup de choix. Et quand tu utilises ces filtres, nous, on s'est souvent retrouvé avec McDonald's parce qu'il y avait une salade au menu. Donc, on s'est dit, là, ça ne va pas du tout. Et il faut qu'on crée notre propre solution. Donc, c'est vraiment comme ça qu'est né le projet.
Mais même vous avez une démarche plus globale, vous reversez quand même 1% de votre chiffre d'affaires, je crois que c'est à Impact France, non? Enfin, si je ne m'abuse.
Alors, on fait partie d'une association qui s'appelle 1% for the Planet.
Voilà, c'est ça.
Qui regroupe des entreprises qui ont l'engagement de reverser 1% de leur chiffre d'affaires, qui soient bénéficiaires ou pas à des associations de protection de l'environnement. Mmh. Et effectivement, on fait aussi partie d'une association que tu mentionnes qui s'appelle le Mouvement Impact France, c'est qui ça. Réunit des entreprises qui ont décidé en fait tout simplement de donner du sens à leur action au-delà de leur mission première qui est de réaliser de la marge et du chiffre d'affaires. On est une opération économique, on n'est pas une association, on n'est pas des bénévoles, mais néanmoins, de plus en plus en fait, on s'aperçoit que les entreprises ont un rôle ultra important à jouer en fait dans la transformation de nos sociétés, de la façon dont on vit. Et le Mouvement Impact France est un des organes, un des lieux où on peut s'engager de cette façon-là. Donc c'est pour ça qu'on a rejoint ce mouvement.
Et du coup, ITIC, ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'on télécharge l'application et dedans, vous avez sélectionné des restaurateurs existants qui, eux-mêmes, proposent leur carte pour se faire livrer, enfin pour de la livraison.
Exactement, okay. Ça fonctionne exactement de la même façon que les applications que tu peux connaître. Tu vas télécharger l'app, tu vas te géolocaliser, trouver un restaurateur près de chez toi, sélectionner ton panier, puis soit tu peux récupérer ta commande en click and collect, soit te faire livrer principalement par des livreurs à vélo pour limiter ton empreinte carbone en moins de 30 minutes. Donc le mode de fonctionnement, il va être exactement pareil que sur les autres apps. La différence, tu l'as dit, hein, c'est en fait la sélection des restaurants. Nous, la totalité des restaurants qui sont référencés sur ITIC, aujourd'hui on en a un peu plus de 322 pour être précis, à Paris, Lille, Lyon, et on vient d'ouvrir Bordeaux il y a une semaine.
Vous êtes pas que à Paris, ouais.
Exactement, on essaie d'être présent au plus d'endroits possible en France. On a 5 nouvelles villes qu'on souhaite ouvrir d'ici la fin de l'année. Et en fait, tous les restaurateurs qui sont présents sur la plateforme, ils vont adhérer à une charte, et cette charte, si tu veux, elle porte sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la restauration. Ça veut dire le sourcing des produits, la transformation, la saisonnalité aussi, le packaging, qui est un point super important et très générateur de déchets. Aujourd'hui, voilà, on voit que c'est un enjeu crucial. Donc nous, on a d'ailleurs été la première plateforme à proposer la livraison dans des emballages consignés. On l'a fait 2 mois avant d'autres grandes plateformes de la place. On en est très fiers. Mais le but, tu vois, c'est vraiment d'être dans une démarche qui soit cohérente, pas uniquement par ce qu'il y a dans l'assiette. Nous, c'est vraiment par là qu'on commence, mais aussi sur les autres aspects.
Est-ce que, du coup, tu peux nous parler un tout petit peu des évolutions à venir pour ITIC ? Parce que tu nous dis on veut ouvrir plusieurs villes dans les prochains jours, mais alors comment tu t'y prends ? Je pense que vous avez fait une campagne de crowd equity, c'est ça ?
Exactement, qui est toujours,
en ligne.
Ouais.
Okay,
ouais, tout à fait.
On peut le dire. Comment on fait pour y
Alors aujourd'hui, c'est très simple. Vous pouvez aller sur itic.fr et vous allez avoir toutes les informations pour participer à la campagne. Je fais une petite précision à ce sujet-là parce que ça a du sens pour nous. En fait, le but de cette campagne, c'était de permettre aussi à notre communauté et à nos restaurateurs, qui sont en fait les gens qui créent notre valeur. Nous, on est un intermédiaire. On a un rôle qui est clé dans ce business, mais on est un intermédiaire. Mais aujourd'hui, la valeur, elle est créée par les restaurateurs sont dans leur cuisine et par nos clients. Donc, le but, c'était de leur permettre, ou en tout cas à ceux qui le souhaitent, d'être associés pleinement au projet. C'est pour ça qu'on a lancé cette campagne qui court encore. Donc, n'hésitez pas à aller sur itic.fr pour trouver toutes les infos.
Tu penses que c'est un mouvement de fond, ça ? Le crowd equity, c'est-à-dire le fait que tu ouvres ton capital finalement à la terre entière, enfin, qui veut y arriver ? Il n'y a pas de critères en plus particuliers. Enfin, je suppose que tu ne fais pas une enquête sur chaque personne qui veut te donner de l'argent.
Alors, il y a des critères. En fait, pour pouvoir souscrire, tu dois quand même renseigner ton identité, donner un justificatif de domicile. Donc, également prouver ta résidence fiscale. Voilà, on passe par des outils qui permettent de faire un minimum de check, mais sinon c'est ouvert à tout un chacun. Il n'y a pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 ou autre. Et pour répondre à ta question,
ça démarre à combien à peu près ?
À 250 €. Tu peux dès 250 € devenir actionnaire de ITIC.
Ok. Excuse-moi, je t'ai coupé, t'allais me dire autre chose.
Non, en fait, c'était pour répondre à ta question
sur le mouvement de fonds, tu vois, parce qu'est-ce que ça va devenir une nouvelle manière de se financer pour des entreprises qui sont des entreprises à mission ou des entreprises à impact. Enfin, je ne sais pas s'il y a une appellation en particulier, mais celles qui veulent faire du bien, tu vois. Enfin, on va dire ça comme ça.
Je pense que c'est de plus en plus un mouvement de fond. Je pense que c'est un des aspects du financement. Ça ne peut pas être le seul, parce que au cours de ta croissance, tu vas avoir besoin de fonds qui vont être potentiellement plus importants. Tu as le financement bancaire, tu as évidemment les business angels et puis les fonds de VC. Je pense que ce sera toujours des acteurs incontournables et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. En revanche, effectivement, je pense que c'est un mouvement de fonds de plus en plus vouloir associer les communautés à l'aventure, que ce soit par le crowd equity ou tout ce qu'on voit aussi dans le Web3 aujourd'hui avec les crypto-monnaies qui vont permettre en fait à des communautés de co-partager ou de co-créer des projets. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un mouvement de fond.
Qu'est-ce que tu veux dire par la crypto ? C'est-à-dire que par rapport à ton business, par exemple, comment
alors,
tu le vois ?
En fait, je faisais une comparaison. Hein, mais ce qui est vrai, aujourd'hui, ce qu'on voit, ou ce qu'on appelle un peu généralement le Web 3, c'est ce phénomène par lequel tu vas avoir des groupes de personnes qui vont se mettre ensemble, qui vont émettre en fait des coins ou des, une monnaie, et qui vont se partager et créer eux-mêmes les droits, la structuration de leur business par ce biais-là, de façon décentralisée. Donc en fait, le principe de communauté comme partie prenante à la gouvernance, que ce soit de façon complètement décentralisée ou de façon minoritaire, pour moi, il est de plus en plus, présent.
Vu que tu es multi-entrepreneur dans l'âme, quel grand enseignement tu as pu extraire ou tirer de ta première expérience en entreprise ? Est-ce que tu as le sentiment que l'évolution d'ITIC, qui est donc ta deuxième entreprise, à bénéficier, enfin forcément, enfin, tu vas pas me dire non, mais voilà, si tu avais deux, trois trucs en tête ou même un seul où tu te dis, bah tiens, ça c'est une, par exemple, c'est une erreur ou une erreur de débutant ou un truc que j'ai fait dans ma première boîte et que je ne referai pas chez ITIC. Par exemple, tu vois, est-ce que t'as ça en tête ou pas ?
Ouais, alors je pense que c'est pas forcément un learning ce que j'ai eu dans ma première boîte, mais que j'ai pu avoir dans d'autres expériences. C'est que beaucoup de jeunes entrepreneurs vont avoir une idée, vont essayer de la parfaire très longtemps, vont beaucoup y réfléchir. Et vraiment, en fait, moi, la recommandation, en tout cas, c'est d'y aller le plus vite possible. Mais vraiment, le timing est super important, d'aller le plus vite possible sur le marché, tester son idée, voir si ça marche, la modifier, mais surtout pas attendre.
Donc c'est cette barrière en fait qui était tombée un peu pour me lancer ITIC, quoi. Tu t'es moins posé de questions pour
exactement.
La première. D'accord.
Exactement.
Ouais. Ça, tu t'es lancé, tu t'es dit bah, j'apprendrai en avançant. Quoi.
Exactement. Et puis il y avait une sorte, tu vois, là c'est peut-être plus un point, je dirais, personnel, mais en fait, c'était un peu aussi lié à ce moment du Covid et puis aussi au moment où j'ai eu mon deuxième enfant, ma fille, et où il y a eu un temps de réflexion, si tu veux, où je me suis posé pas mal de questions sur l'environnement, sur l'écologie, et où en fait bah, j'ai appris pas mal de choses sur ces sujets-là, et notamment sur l'impact de notre mode d'alimentation, de la façon dont on fait de l'agriculture et de l'industrie agricole aujourd'hui dans le monde. Et c'est devenu une sorte d'urgence, si tu veux, de créer ou de participer à un projet pour moi qui ait du sens et qui remplisse une partie de cette mission de transition que j'estime absolument indispensable, mais pas du tout comme un pain, si tu veux, mais beaucoup plus comme une opportunité de dingue, à la fois en termes de plaisir, de goût, mais aussi voilà, de contribution à quelque chose de plus important que soi.
Qu'est-ce que tu observes depuis le lancement d'ITIC ? Parce que maintenant, ça remonte à quand tu l'as lancé ?
Un tout petit peu plus d'un an.
Voilà, c'est ça. Alors, tu ne vas pas me dire que ça ne marche pas, mais est-ce que tu sens déjà, auprès de tes interlocuteurs qui sont tes fournisseurs, les restaurateurs, etc., qu'il y a déjà une relance post-Covid, je pense. Hein, tu vois, il y a certainement eu un petit ralentissement d'activité qui est lié à la période, mais est-ce que tu sens qu'il y a une dynamique post-Covid, justement, vers ce genre de marché ? C'est-à-dire que moi-même, pendant le Covid, j'ai eu le sentiment que le temps s'était arrêté, etc. Et j'étais convaincue que les gens allaient manger différemment, vivre différemment, voyager moins. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je me suis peut-être trompée, je ne sais pas. Mais est-ce que tu sens qu'il y a, voilà, naturellement, au niveau macro, je ne te parle même pas de tes chiffres à toi ou de ta structure à toi, mais est-ce que les gens veulent mieux manger ? Tu vois, enfin, est-ce qu'ils sont plus sensibles à ces sujets-là, globalement ? Parce que c'est ton secteur, tu le connais mieux.
Oui, bien sûr. Alors, vraiment, l'impression générale, c'est qu'il y a une envie chez les gens, chez tout un chacun, de donner du sens à sa consommation, de mieux manger. Il y a évidemment une question de prix hein, qui se pose, surtout dans une période dans laquelle on est, où avec l'instabilité géopolitique, la guerre en Ukraine, le stress sur les matières premières, la remontée des taux d'intérêt des banques centrales, le sujet du prix va être extrêmement important pour les gens. Mais en fait, c'est là où ça a encore plus de sens pour nous de pousser pousser finalement une alimentation qui soit plus basée sur le végétal, c'est que aujourd'hui, il faut savoir que 80% des terres agricoles qu'on a, hein, 80%, c'est un chiffre énorme, est utilisé pour l'élevage ou pour cultiver du feed, donc de la nourriture pour l'élevage. Et en fait, c'est juste un modèle qui est pas tenable. Et c'est là où nous, on estime, si tu veux, qu'on a une pierre à apporter à l'édifice. Alors après, au-delà, moi, de ma vision personnelle ou de ma compréhension empirique du sujet, voilà, t'as des chiffres qui trompent pas, hein. Si tu veux, aujourd'hui, tous les grands acteurs industriels, tous, que ce soit Unilever, Danone, Mondelez, PepsiCo, investissent massivement dans des projets, des produits de substituts à la viande, aux poissons, aux produits laitiers, plant-based. C'est une croissance, je crois, à trois chiffres. On parle de 300% par an depuis deux ans, donc c'est juste phénoménal. Et de l'autre côté, en termes de changement des habitudes alimentaires, juste deux, trois chiffres. Je ne veux pas être technique ou embêter les auditeurs, mais en fait, aujourd'hui, tu vois que la population qui estime être végétarienne ou végane, c'est 5% de la population en moyenne. En France, ça va être 6-7% en Europe D'accord. du Nord, au UK, aux États-Unis. Mais si tu prends les 18-35 ans, on va monter à 12%. Donc, tu as un phénomène qui est vraiment plus marqué dans cette transition chez les jeunes. Et puis, tu as un autre chiffre qui est impressionnant, c'est le chiffre du nombre de ce qu'on appelle les flexitariens. Alors, c'est un mot que tout le monde ne connaît pas, tu vois, qui peut faire un peu peur. Mais en fait, c'est très simple. Ça veut juste dire les gens qui ont diminué leur conso de viande ou de poisson juste pour leur santé, pour l'environnement, pour leur plaisir aussi. Et en fait, ça, c'est 35% aujourd'hui de la population qui est flexitarienne, en le sachant ou sans le savoir. Mais c'est juste des chiffres énormes. Donc, on est vraiment dans une phase de transition alimentaire qu'on voit pas forcément au jour le jour parce qu'on a le nez dans le guidon, mais qui est vraiment en train de se produire. D'accord. Et nous, c'est sur ça qu'on veut se positionner aussi.
Alors du coup, tes évolutions dont tu peux nous parler, outre les ouvertures de prochaines villes, qu'est-ce que tu peux nous révéler ? Alors je sais que tu es dans une phase de développement, donc il y a toujours des sujets un peu confidentiels, etc. Mais voilà, si tu avais des choses que tu as envie de communiquer, ce serait quoi ?
Bah écoute, déjà un des points importants pour ITIC, un des milestones importants qu'on doit atteindre cette année, c'est notre certification B Corp. On a obtenu l'année dernière le statut pending B Corp, qui est un statut qui permet de valider en fait ta démarche quand t'es une entreprise qui a moins d'un an d'existence. Donc là, on a un an pour obtenir notre certification. Donc c'est quelque chose qui est très lourd, mais qui est très structurant en fait dans la façon dont tu vas envisager ton entreprise, que ce soit au niveau de tes fournisseurs, au niveau de ta gouvernance. Au niveau évidemment du recrutement et des RH. Donc ça, c'est vraiment un point qui est super important pour nous.
Tu peux juste rappeler ce que c'est que la certification B Corp, parce qu'entre ça et les entreprises à mission, en ce moment j'en entends beaucoup parler, mais il y a peut-être une différence quand même.
Ouais, B Corp en fait c'est un label qui a été créé aux États-Unis et qui va permettre aux entreprises, avec un processus qui est très très structuré, de mettre en place en fait des méthodologies et des process dans quatre piliers fondamentaux de leur activité, à savoir ce que je te disais sur la gouvernance, sur les RH, sur leur impact environnemental et social, d'adopter des bonnes pratiques. Donc, en fait, très concrètement, pour te dire comment ça se passe, tu as une sorte de questionnaire géant qui est très complexe. Auquel tu vas répondre, qui va structurer ton action, sur lequel tu vas obtenir des points, et ensuite tu vas être audité par un auditeur de B Corp qui va venir vérifier que...
Régulièrement,
tout à fait. Okay. Tu dois, je crois, tous les deux ans être recertifié. Donc, c'est vraiment un process au long cours. Et puis, un des aspects qui est demandé par cette certification, c'est le fait d'être une entreprise à mission, d'avoir intégré dans ses statuts une raison d'être. Donc, c'est-à-dire au-delà de ta raison d'être économique, qui est par nature, qui est, je dirais, de base, tu vas avoir une raison d'être qui va être ta contribution, si tu veux, au contexte social et à la société en général. Pour nous, c'est la facilitation de l'accès à une alimentation qui soit plus durable, plus respectueuse de l'environnement, des humains et des animaux, par exemple. Donc, la certification B Corp, c'est un gros enjeu pour nous. Et puis, un autre aspect... ça va être aussi l'intégration dans notre UX, dans l'expérience de nos utilisateurs, d'incentives qui vont les pousser à mieux consommer et aussi les rewarder quand ils vont le faire mieux. Typiquement, je te donne un exemple, on parlait tout à l'heure des contenants consignés, de te faire livrer dans des contenants consignés. Demain, quand sur ITIC tu feras ce choix-là, tu pourras être rewardé. Ça pourrait être du reward financier, non financier. Mais l'idée, c'est vraiment d'intégrer l'impact dans ton expérience d'utilisation.
D'accord. Ok. On parlait pas vraiment, mais panier moyen, enfin, est-ce que tu as une idée à peu près des montants ? Parce que on en parlait tout à l'heure, ça coûte cher quand même de bien se nourrir. Enfin, encore aujourd'hui, proportionnellement à l'échelle nationale, mais c'est voilà, c'est pas forcément un bien de grande consommation, ce qui est à regretter. Hein, mais tu peux nous donner à peu près une idée globale, tu vois, genre un repas sur Itik, ça coûte combien environ?
Alors nous, on raisonne par commande. En moyenne, une commande, ça va être 35 euros, sachant que tu vas avoir en général deux repas par commande. Itik, on n'est pas du tout un service élitiste ou premium.
Parce que 35 pour deux repas,
ouais.
C'est ça?
Ouais,
donc
tout
c'est
à fait.
Pas si excessif.
Exactement, et tu peux trouver, t'en as vraiment pour toutes les bourses sur Itik. Tu
d'accord.
peux aussi bien trouver voilà, des pizzas, des super burgers trop délicieux vegan pour 10 euros que des bowls ou de la cuisine méditerranéenne très sophistiquée qui va être voilà, un peu plus gourmet, donc forcément
d'accord.
un petit peu plus cher.
Okay.
Mais tu peux vraiment, il y en a pour toutes les bourses.
Canon. Est-ce que tu aurais, là on va passer à une partie un peu plus perso, mais est-ce que tu aurais des... J'aime bien poser cette question. Je ne sais pas, des conseils, tu t'en donnais un tout à l'heure, à savoir lancez-vous, vous ne posez pas 36 questions, allez tester votre produit, etc. Mais voilà, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner, indépendamment de celui-là, à des gens qui veulent aller peut-être éventuellement dans ton secteur, tu vois, pas que, mais vu quand même que là, tu connais bien ce marché-là. Mais voilà, dès que j'ai un entrepreneur face à moi, je me demande ce qu'il aurait envie de dire, tu vois, à la prochaine génération.
Mais écoute,
ou à la même génération.
Je pense l'entrepreneuriat, c'est fondamentalement pour moi une aventure collective. Je trouve que dans la presse, on met beaucoup en avant, tu vois, les exploits individuels.
Elon Musk ou
voilà, par exemple.
Des têtes, ouais.
Voilà, parce que ça fonctionne très bien dans la narration, ouais. Mais c'est fondamentalement une aventure qui est collective. Donc moi, ma reco...
T'as raison de le rappeler.
Et ça, je pense que c'est vieux comme le monde, hein, mais ma reco, c'est n'entreprenez pas seul. Je sais qu'il y en a qui le font et que c'est super dur, mais je pense que c'est bien d'être à plusieurs, tout simplement parce qu'on n'a pas la science infuse, qu'on ne sait pas tout, qu'on n'est pas bon partout, que le but, ce n'est pas de l'être non plus. L'entrepreneuriat, c'est aussi voilà, de savoir créer une team. Donc ça, ce serait vraiment mon principal conseil. C'est si vous êtes un solitaire dans l'âme, je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille faire. En revanche, forcez-vous à aller trouver des gens qui ne sont pas comme vous, qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes compétences et à mon avis vous en sortirez beaucoup mieux.
Je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est marrant parce que j'avais pas du tout cette conviction au début du podcast. J'avais limite un sujet sur l'association, etc. Et en fait maintenant je suis convaincue que t'as raison. Tu vois, en 4 ans, j'ai changé d'avis.
C'est vrai que, et moi, je rencontre plein d'entrepreneurs aussi. Et tu vois, je fais partie d'un réseau. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit peu la pub qui s'appelle le Réseau Entreprendre, qui a des antennes dans toute la France, dont tu as sans doute déjà dû parler
bien
dans
sûr,
le podcast. Et qui permet à des entrepreneurs de se retrouver, de se réunir, de partager aussi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une voie où on travaille beaucoup, où il y a des hauts qui sont très, très hauts. Et puis, il y a des bas qui sont aussi très très bas.
Donc le partage est important.
Voilà, exactement, pour le dire comme ça, effectivement. Donc entourez-vous.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. La solitude est très dure et en plus, dans une période comme la nôtre, où on a un peu l'impression d'être sur des sables mouvants en permanence, je pense que c'est fondamental, effectivement, de ne pas être seul.
Ouais, exactement.
Plus en période de crise, je dirais. Alors, est-ce que nous, on est une génération qui allons vivre des crises permanentes? Je le pense. Je pense qu'il y aura une crise tous les ans quasiment, ou tous les deux ans, tu vois, entre les sanitaires, les économiques, les sociales, etc. Enfin, je pense qu'on sera un monde de crise. Donc du coup, effectivement, le groupe aide à traverser les épreuves.
Ouais, tout à fait. Je ne sais plus qui disait qu'il y a un retour du dramatique dans l'histoire. Et c'est vrai qu'on est un petit peu dans cette période-là, dans ces cycles-là. Et c'est des moments qui représentent aussi beaucoup d'opportunités.
Bien sûr.
Mais pour pouvoir les saisir, je pense que, comme tu le dis, faut s'entraider, faut serrer les coudes.
En France, est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'être entrepreneur qu'ailleurs ?
Pas du tout. Non, pour répondre très clairement, moi j'entreprends depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Je sais qu'on a beaucoup dit, les Français ont l'habitude de se plaindre beaucoup des lourdeurs administratives, etc. Il y a peut-être des pays où c'est plus simple d'ouvrir sa boîte, mais bon, quand on parle d'une différence entre 2 jours ou 5 jours pour avoir un cabis, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose de fondamental. Non, je trouve que au contraire, et on l'a vu à plus forte raison pendant la période de Covid, on est dans un pays où les entrepreneurs sont soutenus, sont aidés, sont mis en avant aussi. Hein. C'est vrai que voilà, moi quand j'étais plus jeune, on était dans une culture encore en France où l'entrepreneur ou la figure du patron était un petit peu critiquée ou était mal vue. Mmh. Je pense qu'il y a eu un changement de paradigme, qu'au contraire, il y a beaucoup d'envie aujourd'hui de la part de la population pour entreprendre. Il y a eu aussi une espèce de fascination qui n'est pas toujours peut-être justifiée. Mais non, pour répondre à ta question, je trouve qu'on est, on est dans un très bon endroit pour entreprendre avec beaucoup de gens très créatifs.
Qu'est-ce que tu as ressenti comme étant la plus grande difficulté que tu as traversée ? C'est-à-dire, qu'est-ce que dans ton parcours, forcément, tu as eu une difficulté ? Comment tu t'en es sorti ? C'est quoi les ressorts en fait qu'il nous faut quand on a envie de se relever d'un truc qui nous qui semble nous terrasser, tu vois, quand ça nous arrive ? Parce qu'on a tous vécu ça un jour ou l'autre dans notre vie, tu vois. Mais je suis toujours intéressée, toujours pour transmettre. Attention, il y a pas de, je te demande pas de nous révéler un secret de guerre, mais quand tu as dû traverser une très très grande difficulté ou une difficulté tout court, comment t'as géré le truc ?
En fait, je pense que ce qui est le plus dur, c'est pas la difficulté elle-même, c'est pas quand t'es dans le dur, c'est le moment juste avant où t'es pas encore vraiment conscient que t'y es. Et où tu sens que ça va pas et où ça commence à monter, tu sens qu'il y a la pression qui commence à monter. Et le moment où tu vas mobiliser tout le monde et tu vas mettre les warnings et dire OK, faut qu'on se mette en ordre de bataille parce que là on va dans le mur. Ce moment-là, tu te sens en contrôle et tu sens que même si ça va pas forcément aller dans le sens où tu veux, au moins tu fais
exactement
et tu fais le max.
D'accord.
C'est cette période un petit peu avant, un petit peu
d'incertitude
ouais. qui est la plus dure à mon avis à vivre parce qu'en fait t'es pas en contrôle. En tout cas, moi c'est mon sentiment et ça peut s'appliquer à différents sujets, hein, des sujets qui peuvent être vitaux pour ta boîte ou pas. Souvent ça va être lié à, pour moi, deux sujets, hein, les sujets qui sont les plus complexes, ça va être des sujets humains, bien souvent, des sujets d'équipe où faut prendre des décisions qui parfois peuvent être compliquées, mais faut savoir en parler. Et ça aussi, peut-être un autre conseil, le faire le plus vite possible,
ne pas laisser la rapidité.
Ouais, la rapidité, c'est ultra important, de pas laisser les choses se empirer. Et puis après, bah t'as des sujets qui peuvent être liés à l'activité, voilà, de la boîte, à son activité économique, au cash flow, hein, le nerf de la guerre, on le dit jamais assez. Voilà, mais c'est cette phase souvent d'avant. Qui peut être la plus dure.
T'as raison, c'est très vrai ce que tu dis. Parce qu'on est un peu souvent dans le déni, enfin pas dans le déni, c'est pas une forme de déni, mais c'est une forme de on voit pas clair, quoi.
Ouais, c'est ça.
Un peu flou.
Et tu le laisses de côté, tu le laisses de côté, tu le laisses de côté, jusqu'à ce qu'en fait ça devienne tellement important que ça va exploser.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur l'éthique ? Une question que je t'aurais pas posée avant que je te pose mes questions de fin d'interview ?
Non, écoute, sur éthique, vraiment, je pense que nous, notre ambition, c'est de devenir une alternative qui soit éthique et qui soit vraiment mieux disante par rapport aux plateformes qui existent sur le marché. On veut se déployer en Europe, au UK notamment, dès l'année prochaine et puis ensuite aux États-Unis. Notre but, c'est également d'intégrer d'autres typologies de services. Notre communauté nous demande en fait tous les jours, OK, c'est super, on peut commander des plats, mais on aimerait bien se faire livrer des courses, des cosmétiques qui correspondent, tu vois, à une c'est meilleure clair. Façon de consommer. Donc notre ambition, tu vois, c'est vraiment de devenir ce one-stop shop qui soit éthique et qui change un petit peu notre façon de consommer.
Je te le souhaite.
Écoute,
ouais, cool.
merci beaucoup et puis merci de m'inviter pour pouvoir en parler.
Mais avec plaisir. Mais attends, j'ai pas fini quand même.
On est vraiment habité par cette mission.
Mais c'est top. En même temps, je pense que c'est indispensable quand on est dans ces secteurs. Oui, alors mes questions de fin d'interview, c'est toujours les mêmes. Un coup de cœur, un coup de gueule et ta vision de la France, même si tu nous en as dit un petit peu d'un point de vue entrepreneurial, mais encore une fois, ce n'est pas une question politique, même si je sais que tu as fait Sciences Po. C'est pas,
Et ça nous rattrape toujours un petit peu. Écoute, un coup de cœur... Je vais parler rapidement d'un documentaire que j'ai vu sur Netflix et que tout le monde peut voir, qui s'appelle Fantastic Fungi ou Fungi.
Sur les champignons.
Voilà, sur les champignons, qui est absolument exceptionnel. Et on apprend énormément de choses sur en fait, cet organisme vivant qui est le plus vieil organisme vivant qui existe sur cette planète et qui relie littéralement tout. tout ensemble, les forêts, les arbres, le sol, les humains, qui est partout et qui est d'une certaine façon intelligent et qui nous rappelle aussi que voilà, parfois on est dans notre verticale, on est dans notre truc, dans notre ville.
On est un champignon nous aussi.
Et voilà, on est liés tous ensemble avec ça. Et donc je pense que c'est
je
cool.
Je crois que les images sont assez dingues.
Hallucinant. Ouais. T'as vraiment des images où ils te présentent la forêt un peu comme un iceberg avec en infrarouge ensuite tout ce qui se passe en dessous. Vraiment, même visuellement, c'est super trippant.
Ouais, ouais.
Puis après, le docu va sur des sujets qui sont aussi très intéressants, je dirais, sur des problématiques de santé publique et notamment comment traiter avec le microdosing certaines pathologies, le cancer, etc. Donc, c'est aussi très intéressant à ce niveau-là. Donc, ça, c'est
pour. C'est sur Netflix, non ?
Netflix, ouais, tout
Netflix.
À fait, pour le coup de cœur.
Ok. Et coup de gueule ?
Coup de gueule, écoute, c'est plus compliqué. Ce serait peut-être un coup de gueule préventif ou en tout cas par anticipation. On sort d'une période électorale qui a été très dense, qui a été dure aussi. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont mis l'écologie, l'environnement au cœur de leur discours en disant qu'on allait vers de grands changements. J'ai vraiment envie d'y croire. Mais je pense que c'est vraiment un tournant qu'on peut absolument pas manquer, et d'autant plus qu'il faut pas voir, comme je le disais tout à l'heure, comme un pain, mais vraiment comme une opportunité absolument magnifique de réinventer notre modèle de société, et pas forcément une fois de plus dans la souffrance, mais aussi dans le plaisir. Je suis très vigilant par rapport à ça.
Et du coup, vision de la France.
Écoute, vision de la France, moi j'ai une vision qui est très optimiste malgré certains signaux qu'on a pu voir. Je crois que c'est un pays qui a énormément à apporter au monde, qui a toujours eu, tu vois, cette vocation, je suis désolé, je pars un peu dans la politique. Mais cette vision un peu universaliste et qui a toujours eu peut-être un peu trop de prétention, mais quand même qui a réussi pas mal de choses à apporter au monde. Je pense qu'on a des talents exceptionnels dans ce pays, donc moi je suis très optimiste pour la France.
Magnifique. Écoute, Benjamin, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Je souhaite une longue et belle vie à Éthique. Et puis, tu reviens quand tu veux.
Merci de m'avoir invité, Stan.
Merci, ciao, ciao.
Ciao.
Voilà, les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel, et à très vite pour un prochain épisode.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.